Approchez, je vous en prie.
Bienvenue à tous hein, dans ce jardin pédagogique.
Visite du jardin pédagogique de la biodiversité Lucien Quérotré et de l'Observatoire des abeilles à Douai. Ce jardin porte le nom d'un ancien professeur de sciences naturelles, cofondateur du groupe ornithologique et naturaliste GEON, dont nous parlera Gaëtan Cavite. L'apicultrice de la ville de Douai parlera aussi de ce lieu qui fait la part belle aux abeilles. D'abord, rencontre avec Martial Louet, directeur des jardins et du cadre de vie de la ville de Douai, qui explique l'évolution des serres municipales où nous nous trouvons.
Cet endroit, c'est l'origine du service des espaces verts. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Hein. Et c'était un outil de production. C'est toujours un outil de production, mais qui a muté aujourd'hui. À l'époque, on produisait à peu près 250 000 plantes par an, avec des plantations de massifs qui étaient faites à l'époque avec très peu de variétés. Aujourd'hui, on est sur notre dynamique de plantation. On plante des massifs durables en mélangeant des arbustes, des vivaces et puis quelques estivales qu'on continue à produire sur ce site-là. Donc effectivement, ce site a laissé une place assez importante qu'on a réussi à transformer en jardin pédagogique. Alors cette pédagogie, c'est quand même un élément important aujourd'hui du service parce que depuis plus de 10 ans, on a des écoles qui viennent visiter les serres. Et puis maintenant, on les fait sortir des serres pour arriver sur le jardin et après les maisons des abeilles que vous avez vues tout à l'heure.
On a pu visiter l'endroit avec des grandes vitres pour observer les abeilles en toute sécurité hein, au niveau des enfants, du public scolaire hein, qui vient ici.
Oui, c'est vrai que les apiculteurs ont une tenue très particulière hein, pour se protéger des piqûres, parce que bon, les abeilles se défendent aussi, hein, même si en général les abeilles c'est pas méchant. Mais pour éviter d'avoir 20, 30, 40 tenues pour les écoles, on a préféré en avoir qu'une, donc l'apiculteur, et que les enfants puissent regarder la manipulation des cadres, montrer la reine. En fait, quand ils arrivent sur le bâtiment et quand ils arrivent devant la vitre, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'ils viennent de suivre une petite formation en démarrant de la graine, à la petite plantule, à la plante, à la fleur, pour arriver aux abeilles qui butinent et au miel. Voilà.
Alors on parlait des abeilles en ville, comme ici à Douai, et aussi des abeilles à la campagne. Ici en ville, elles se portent bien, les abeilles ?
Alors les abeilles, comme je disais tout à l'heure, oui, elles se portent bien, parce que aujourd'hui la ville, elle est sur une dynamique de zéro phyto. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la diversification du monde végétal. On a des fleurs vraiment diversifiées. Et c'est ce qui fait aussi un peu la qualité du miel de la ville de Douai.
On est dans une société de l'instantanéité, on veut tout de suite. Là non, il faut attendre pour avoir des fleurs, des légumes.
C'est pour ça que c'est important d'avoir des végétaux en ville, notamment des arbres qui perdent leurs feuilles. Un arbre qui perd sa feuille, ça montre la saisonnalité de la nature. Un arbre qui ne perd pas sa feuille, c'est triste. Tous les ans, c'est la même chose. Souvent, on disait, voilà, les plantations d'un arbre, c'est important de les voir dans les écoles, de manière à ce que les enfants puissent voir cette évolution de la saison. Et nous, dans nos parcs et dans les jardins, on essaie d'apprendre ça aux enfants, et ça, c'est important.
Un jardin pédagogique donc adapté pour les enfants du Douaisis. Véronique Kotarski est l'apicultrice de la ville de Douai. Elle nous décrit les différentes parties de ce jardin.
Alors en fait, on a le jardin partie plantes, on a une partie aussi insectes avec des installations, l'hôtel à insectes, l'observatoire à abeilles qui permet en fait de voir le fonctionnement d'une ruche, les diverses missions de l'abeille ouvrière et comment on fait du miel.
Alors là, dans le bâtiment, c'est vitré, on peut voir les abeilles directement en toute sécurité, surtout avec les enfants. C'est aussi ça, montrer comment ça fonctionne une ruche, avec des panneaux, des outils aussi, hein, pour comprendre le fonctionnement.
Alors au départ, en fait, on s'est posé la question comment on allait appréhender ces visites. On se demandait, est-ce qu'il fallait équiper les enfants en combinaison et aller visiter les ruches ? Et puis finalement, on s'est dit qu'un bâtiment vitré protégé pouvait permettre aussi de présenter d'autres choses. Comme là, on a vu la ruche pédagogique. Quand il pleut, on ne peut pas voir les abeilles, les vraies abeilles en train de travailler. Ben, on montre la pédagogique avec les photos. On a des supports à fiches et puis on manipule des spécimens d'abeilles qu'on a récupérés.
Et vous accueillez pas mal d'enfants dans ce lieu ?
Alors oui, on accueille plus de 1000 enfants par an. Donc c'est tout ce qui est scolaire, alors les petites, moyennes sections pour le moment. On espère avoir les grandes sections pour faire encore un autre travail avec eux. Et tout ce qui est centre de loisirs.
Et c'est montrer non seulement le fonctionnement, mais aussi les rythmes de la nature. C'est aussi prendre son temps, la nature.
Oui, tout à fait. L'objectif général, on va dire, c'est surtout de faire comprendre, de leur transmettre ce qu'est la pollinisation, l'importance de la pollinisation. Alors, via l'abeille domestique, mais aussi l'abeille solitaire, les papillons, les bourdons, et bien leur faire comprendre que si on n'a pas ces insectes-là, il y a une grosse partie de la nourriture qu'on consomme ne sera plus disponible.
Alors c'est dans le cadre scolaire qu'ils viennent avec l'éducation nationale, hein, c'est ça, avec les professeurs, ça rentre dans un rythme pédagogique ?
Alors on essaye, oui, de mettre en place un travail en partenariat avec les écoles, où déjà ils ont quelques notions là-dessus, et on vient illustrer, on vient approfondir les choses qu'ils ont vues en classe.
Et ensuite, même à la maison, c'est voir le jardin autrement, pas forcément passer dans le jardin pour y jouer, peut-être voir autrement les choses, la biodiversité dans le jardin, à la maison.
Alors oui, ils en rendent compte. Par exemple, ils ne font pas la différence, enfin les plus petits, les novices, entre une fleur et une plante. Ils ne comprennent pas que c'est la même chose. Par exemple, le pissenlit, c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Je leur montre la fleur du pissenlit et le fruit du pissenlit, le truc où on souffle dessus, et ils se disent « Ah, bah, c'est la même plante. Ah bon ?» Ils sont assez étonnés. Donc, il y a des choses qu'ils connaissent, mais sans vraiment approfondir la chose.
Et oui, après, c'est donc prévu d'avoir encore plus d'enfants ici, avec ces nouveaux outils. Ça permet aussi d'accueillir un large public.
Alors oui, continuer le travail avec les scolaires, approfondir un peu les choses, enfin vraiment faire des thématiques, que ce soit sur la plante, sur les insectes, sur les fruits et légumes, et aussi plus largement d'ouvrir à tout public, pour justement ceux qui ont envie de découvrir, d'apprendre, voir comment fonctionne une abeille domestique.
Parce que c'est vrai qu'on parle des enfants, mais les adultes apprennent aussi beaucoup de choses finalement en voyant non seulement les ruches, mais autre chose.
Ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes. Là, dans le cadre de FestiPlanète, on organise des journées portes ouvertes et on a pas mal de demandes de public adulte pour faire les visites. Ouais.
Ça demande beaucoup d'entretien. Il ne suffit pas juste de poser une ruche et puis ensuite d'observer.
Oui, il y a de l'entretien. Alors c'est surtout les terrains, le terrain pédagogique qui demande beaucoup d'entretien. Et pour ça, c'est vraiment les agents de la ville de Douai qui viennent entretenir, qui viennent donner un coup de main, que ce soit pour la plantation des arbres. On a replanté plusieurs arbres cette année. Donc ça a été fait avec des équipes du secteur. Il y a la plantation aussi, tout ce qui est fruits et légumes, qui est fait par les agents de la ville de Douai.
Tu disais tout à l'heure que les abeilles ici en ville se plaisent bien. Hein. On parlait un peu aussi du frelon asiatique. Il y a le problème un petit peu à Douai aussi.
Alors depuis deux, trois ans, oui, on commence à repérer des nids de frelons asiatiques. Et ça, c'est un vrai problème qui va devenir de plus en plus. Le frelon, ce qui pose problème, c'est d'une part qu'il est plus agressif, et c'est le développement exponentiel qui pose problème. Sur un nid de frelons, on peut dire qu'il y aura une centaine de fondatrices qui vont naître. Alors les 100 ne vont pas survivre, mais s'il y en a une quarantaine, trentaine qui survivent, ce sera autant de nouveaux nids de frelons qu'on aura à combattre.
Ce jardin pédagogique de la biodiversité à Douai s'appelle Lucien Quérotré, en hommage à cet ancien professeur de sciences naturelles, cofondateur du groupe ornithologique et naturaliste GON. Gaëtan Cavite, membre de cette association, nous en parle.
Oui, alors ça fait longtemps que le GON et la section locale, hein, la Gorge Bleue, travaille et a des relations sympathiques et utiles avec la ville de Douai, notamment par exemple pour le comité de gestion de la réserve de Oignonville ou pour le comité de gestion du domaine de la Chaumière qui appartient à la ville de Douai. Et donc là, l'idée a été de la part de la ville de donner le nom à cet espace pédagogique, le nom de notre président fondateur, Lucien Quérotret, tout simplement parce qu'il était fondateur non seulement du GON, mais il était aussi Douaisien d'adoption depuis 1965. Il est décédé en 2004, mais la ville a tenu à ce qu'il y ait un lieu qui porte son nom.
On parle beaucoup des abeilles, mais il y a plein d'autres insectes, hein, pollinisateurs, c'est ça, il ne faut pas oublier les autres. Ce lieu rappelle aussi toute la biodiversité qu'il y a.
Voilà, c'est ça, et c'est ce qu'a souligné Martial Loué, hein, le directeur des services cadre de vie espace vert de la ville de Douai, c'est-à-dire que non seulement il y a les abeilles domestiques, mais il y a tous les pollinisateurs sauvages, qui eux ne sont pas des animaux d'élevage en quelque sorte, parce que les abeilles domestiques sont des animaux d'élevage, même si elles vivent librement, mais tous les pollinisateurs sauvages, ils jouent un rôle énorme pour polliniser les plantes, les légumes, les arbres fruitiers, etc. Et cet espace permet aux pollinisateurs sauvages de trouver de quoi se nourrir et donc de jouer leur rôle.
Alors, il y a un problème qui arrive là dans la région du frelon asiatique. Vous observez déjà, vous êtes vigilant, hein, sur ce problème de frelon asiatique?
Alors effectivement, on a créé des référents, c'est-à-dire qu'on a dans nos adhérents des gens qui s'intéressent aux insectes et qui s'intéressent notamment aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages, qui ont la capacité de conseiller, d'intervenir et en tout cas d'informer sur la présence du frelon asiatique. C'est un insecte qui est préjudiciable pour les ruches domestiques. Pas piéger aveuglément, parce que c'est ça aussi. On dit, il y a un nouvel insecte, il faut le piéger, mais les pièges ne sont pas sélectifs. Mieux vaut agir de manière, entre guillemets, chirurgicale, plutôt que de piéger à tire-larigot, parce que là, on piège non seulement le frelon, mais on piège tout le reste.
Alors, vous aviez dit aussi, avec le réchauffement climatique, finalement, ça évolue très vite, comme là, le frelon asiatique ou autre, il y a des espèces invasives qui arrivent très vite, mais la nature a du mal au départ à combattre, il y a un rythme de la nature qui est plutôt lent aussi.
Alors, c'est ça, la capacité d'adaptation de la nature, et par exemple, parlons des oiseaux qui seraient potentiellement des prédateurs du frelon asiatique, combien de temps va-t-il falloir pour que les espèces d'oiseaux insectivores s'adaptent? Une nouvelle proie pour eux, c'est pas évident, ils la connaissent pas, donc par méfiance, ils vont pas forcément la prédater. Donc il faut suivre ça. Et c'est aussi notre objectif, se rendre compte à partir de quel moment certains oiseaux vont pouvoir commencer à être un prédateur du frelon asiatique, comme ils le sont pour d'autres insectes. Par contre, il n'y a pas que les oiseaux sauvages, les poules, certaines variétés, certaines espèces de poules domestiques deviennent prédateurs du frelon asiatique. Donc toutes ces choses-là sont à suivre, à surveiller, pour éviter les actions trop massives et trop aveugles de piégeage, par exemple.
C'est aussi changer le regard. Par exemple, je pense aux enfants, après qu'ils soient passés au jardin pédagogique, mais vous-même, quand vous faites des sensibilisations pour l'observation ou l'écoute aussi des oiseaux, c'est aussi changer la perception, finalement, et ce que la nature peut nous apporter.
Voilà, c'est ça. Il faut que c'est connu de plus en plus, mais que le grand public et que tout le monde se rende compte qu'on est tous interdépendants, que les oiseaux, les insectes, les plantes et toute la faune en général, eh bien, tout ça, c'est un ensemble. Et si cet ensemble est bouleversé, c'est tout l'ensemble qui va être inquiété et qui va être mis à mal.
C'était un reportage sur le jardin pédagogique de la biodiversité Lucien Quérotret et de l'Observatoire des abeilles à Douai. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur le site ville-douai.fr. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensée.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.